Salut les barbus et bienvenue sur Barbucast épisode 8, enregistré le 30 janvier 2013. Barbucast, c'est le podcast audio francophone sur le DIY ou do it yourself, le hacking physique et l'innovation collaborative. Au programme de cet épisode, toujours plein de news, un dossier sur les Fab Labs et Hackerspace. Le site web de l'épisode, c'est Hobby Electro. On va parler de matériel, avec le matériel pour les podcasts audio et quelques remerciements. Alors, dans cet épisode, je ne parlerai pas des cathos intégristes et mecs de droite débiles qui ont défilé à Paris. Je ne parlerai pas non plus de méga parkim.com. Je ne parlerai pas non plus de la mort d'Aaron Swart. Et je ne parlerai pas non plus des clauses abusives des opérateurs mobiles. On commence les news avec un nouvel arrivant dans le domaine de l'imprimante 3D qui s'appelle le LulzBots, qui suit les clones de RepRap, les MakerBot, etc. avec un prix relativement accessible, avec une imprimante 3D toute montée à 1 725 $. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que vous pouvez acheter aussi tous les éléments séparés. Il y a plusieurs reviews qui sont disponibles à droite à gauche pour vous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients. En tout cas, un manufacturier de plus à suivre. Rien à voir avec le DIY, mais j'aime beaucoup. Marc Eco a sorti un superbe manteau en espèce de Ewok. Qui est juste trop cool, bien sûr qu'on n'arrivera pas à trouver en France, sûrement pas avec ma taille de barbare avec un gros bide et surtout un prix prohibitif, mais j'adore l'idée et Noël c'est pas encore tout de suite, mais vous savez ce qui me ferait plaisir. Une news un peu plus sérieuse avec le site TorrentFreak qui titre « Pirate » pour l'interrogation. Hollywood qui bat un nouveau record du box-office avec un peu plus de 10 milliards, je me suis trompé, de dollars de revenus. Et donc la question qui se pose, alors que aujourd'hui toutes les majors partent à la chasse des vilains partageurs de fichiers ou pirates, comment peuvent-ils faire cela en ayant établi un nouveau record puisque le chiffre est entre 10,7 ou 10,8 milliards de dollars pour l'année passée, l'année 2012. Une question qu'on pourrait se poser et que malheureusement personne ne leur pose. Un article à lire et à méditer comme d'habitude. La news bizarroïde de la semaine nous vient de DIYphotographie.net qui nous rapporte l'histoire de la suite Adobe CS2. Pendant quelques jours, beaucoup de gens ont pensé que Adobe était trop cool. Après nous avoir donné des fontes gratuites et open source, ils allaient nous donner leur suite CS2 qui datait d'il y a 7-8 ans. En fait, pas du tout. Les gens d'Adobe avaient quelques problèmes de maintenance sur le serveur d'authentification pour cette suite, donc la suite CS2. Et ils ont tout simplement décidé de débrancher le serveur, ce qui fait que plus besoin d'authentification pour utiliser votre copie, qu'elle soit légite ou pirate, de Adobe CS2. Donc beaucoup de gens se sont précipités en disant « Ah, enfin, je vais pouvoir utiliser la suite CS dont Photoshop et plein d'autres choses sans être un vilain pirate ». Pas du tout. Si vous l'avez téléchargé plus ou moins illégalement, même si vous l'avez activé ou pas, vous êtes toujours un vilain pirate. Ce qui pourrait faire poser une bonne question à Adobe, qui est toutes les vieilles versions de leur software qui ne sont plus utilisées, plus à jour, peut-être il serait temps de peut-être pas de les réaliser dans le domaine public, mais de les donner pour tous ceux qui ont envie de les utiliser. Une initiative intéressante qui nous vient du site We The People, qui est une plateforme de pétition en ligne associée à la Maison Blanche, avec en particulier une pétition successful qui demandait à la Maison Blanche de bien vouloir construire l'étoile de la mort. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, puisqu'ils demandent que le standard américain devienne le standard métrique et non pas le système impérial. Puisque, comme vous le savez, aussi bien les Anglais que les Américains et que certains Canadiens et d'autres pays un peu bizarroïdes utilisent un système complètement barbare basé sur le pouce, le pied et même d'autres systèmes dont on n'en a aucune idée. Il serait peut-être temps, en 2013, qu'on puisse unifier un peu tous ces systèmes, même s'il existe des outils pour faire des conversions. C'est quand même pas bien pratique. En tout cas, une initiative qu'on soutient à fond et on espère que ça marchera. Un titre qui peut faire froid dans le dos, puisque PC Impact nous dit « Microsoft applaudit le jailbreak de Windows RT, mais corrigera le tir ». Ça peut nous faire peur, mais en fait, c'est une réalité. Par rapport à certains constructeurs ou par rapport à certains éditeurs, il y a plusieurs exemples. Par exemple, le hack du Kinect. Microsoft a en fait une nouvelle politique qui a décidé de ne plus vraiment être le gros vilain méchant comme on le connaît il y a certaines années. Alors, on peut en douter ou on peut en être convaincu. En tout cas, moi je trouve que leur approche est beaucoup plus intéressante que certains autres éditeurs ou constructeurs qui préfèrent faire des procès ou faire chier tout le monde plutôt que d'accepter les critiques et d'essayer de corriger le tir. Donc je dirais un bravo mou pour Microsoft et on attend de voir ce que ça donne. Pas un épisode sans un petit what the fuck spécial Adopi. Et pour cet épisode, c'est notre ami Pascal Obispo qui nous congratule d'une vidéo complètement débile et lamentable. Je vous laisse la voir et méditer sur le site Numérama. Il estime en gros qu'il y a trop de pirates, que l'Adopi ne fait pas assez, qu'elle a été mise en place trop tard, etc. etc. En fait, je ne sais pas trop quoi dire, à part qu'il devrait redescendre de son arbre et venir voir ce que les vrais gens font dans la vraie vie. Pascal, si tu veux, on t'expliquera comment ça marche, le monde du numérique. Contacte-nous. Un article bien intéressant de PC Impact qui nous pose la question : les boutiques culturelles et high-tech sont-elles vouées à mourir ? Avec la disparition du Virgin Megastore, la Fnac, Surcouf, Game, toutes ces enseignes complètement en danger, la question se pose, quelle est la valeur et quelle est l'utilité de ces magasins à l'ère de la dématérialisation et des magasins en ligne. J'ai pas la réponse. Ce que je trouve dommage, c'est que personne ne pose les bonnes questions et n'essaye de trouver les bonnes réponses. Puisque si le modèle change, c'est l'évolution normale de la société, mais que on essaye de blâmer la piraterie ou le commerce en ligne, c'est une autre chose à lire et pour vous faire réfléchir. Un petit article lu vraiment en diagonale sur ubergizmo.fr qui titrait Facebook aurait-il des soucis de trésorerie ? Il vous en coûtera $100 pour envoyer un message à Mark Zuckerberg. Alors, j'ai pas complètement lu l'article, donc peut-être que je vais dire des bêtises, mais pour moi, c'est pas du tout une question de trésorerie, c'est plutôt une question d'emmerdement. C'est-à-dire, à mon avis, il doit recevoir 20 millions de messages par jour, donc pour essayer de faire un filtre, ceux qui veulent absolument envoyer un message à Mark Zuckerberg comme à d'autres, s'ils sont vraiment motivés, ils ont qu'à payer, qui est un système comme un autre de filtre. Après, vont-ils généraliser ça sur tous les comptes ? Ce serait bien utile pour éviter que des amis avec plein de guillemets m'envoient leurs invitations pourries à leur jeu de merde. Une idée à creuser. Une vidéo géniale, si comme moi, vous aimez la batterie, le bourrin et le whisky Jack Daniels, puisque dans cette vidéo, ils reconvertissent une ancienne barrique Jack Daniels en caisse claire pour une batterie. La vidéo n'est pas très longue, elle dure quelques minutes. Le résultat est vraiment super impressionnant et ça m'a donné des bonnes idées pour peut-être faire un épisode de la Grotte du Barbu rigolote pour faire sa propre caisse claire, même si je sais que je vais foirer. En tout cas, une vidéo super marrante à voir tout de suite d'urgence, bien sûr. La suite de notre feuilleton sur les imprimantes 3D et les armes, après avoir eu des démêlés légales avec une entreprise de location d'imprimantes 3D, après avoir réussi à imprimer un receveur d'un AR-15 pour tirer jusqu'à 6 balles, notre ami de Defense Distributed a réussi à imprimer un magazine pour des balles pour un AR-15. Rien de spécial, mais juste leur projet continue. on parlait d'Adopi et de Pascal Obispo. Maintenant, on parle de Je voulais pas pirater, qui est un petit Tumblr qui référence un peu tous les freins à la distribution numérique aujourd'hui d'un point de vue légal. Si vous êtes sous Mac, si vous êtes sous Linux, si vous ne voulez pas des DRM, si vous voulez profiter des séries en VO le jour d'après de leur sortie aux États-Unis, eh ben c'est dommage, puisque il n'y a quasiment ou pas d'offre légale disponible pour vous. Donc, seule solution pour assouvir votre besoin de nouvelles séries télévisées américaines, pirater comme un gros cochon. Le site est intéressant, plein d'exemples, et je pense que les majors devraient s'en inspirer pour un peu établir leur business model. Pareil comme Pascal Obispo, si les majors ont envie de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde numérique, ils ont qu'à nous contacter plutôt que de rester dans leur tour d'ivoire. Un autre projet de ouf relayé par Hackaday, des projets comme on aime bien, puisque des jeunes gens ont décidé de faire une partie de Mario Kart, mais dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord créer un système de tag RFID où ils puissent prendre des bonus dans la vraie course et se les balancer les uns les autres. Ensuite, ça veut dire modifier les cartes pour que on puisse jeter des éléments, que le kart puisse être bloqué, glisser, etc. En tout cas, un projet super impressionnant et une vidéo bien marrante à regarder. Attention, on passe à un article sérieux, on arrête de rigoler, puisque le magazine Make nous demande fabriquer aux États-Unis, est-ce que c'est pas moins cher et plus vert? Vert comme dans on crade pas tout notre environnement. C'est l'article que Stett Holbrook nous rapporte avec certains de ses projets, où en gros il a pris la décision, plutôt que de les faire fabriquer en Chine, de les faire fabriquer à la maison. Et sa conclusion est que si vous vous en sortez bien, si vous prévoyez bien votre projet, vous pouvez vous en sortir bien mieux, pour moins cher et de façon plus écologique. L'article est intéressant et je vous conseille de le lire. Vous adorez Adopi, vous allez encore plus aimer le CSA, puisque le CSA a décidé de venir poser ses gros doigts poilus et graisseux sur nos vidéos, sur le web. C'est en tout cas la tentative qu'ils essayent de faire pour réguler un peu toutes ces vidéos et tous ces gens qui publient des vidéos un peu partout, à droite à gauche, sur le net, sans respecter, bien sûr, la signalétique du CSA. Connaissant le monde du web, j'y crois moyennement. C'est pas la première tentative, puisque les Italiens, l'année dernière, avaient essayé de faire la même chose. C'est pitoyable, mais ça fait partie du processus administratif. En tout cas, une bonne rigolade en perspective dans les mois qui viennent. Vous êtes développeur et vous voulez gagner jusqu'à 10 000 dollars, aider l'ISS, la station internationale, développer son logiciel pour l'orientation des panneaux solaires qui, en gros, fournissent l'ISS toute l'électricité qu'ils ont besoin. Ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à le résoudre et donc ils ont lancé un concours. Donc le premier gagne 10 000 dollars, le deuxième gagne d'autres prix, etc. etc. Moi, je trouve ça un moyen plutôt sympa de résoudre un problème technologique par la communauté. Cette news est particulièrement intéressante si, comme moi, vous adorez souder le métal, ou comme moi, si vous soudez très très mal le métal à l'arc. Puisque un des défauts des masques obturants ou semi-obturants automatiques, c'est que quand vous avez commencé à souder, vous voyez plus rien. Et cette personne a créé un masque de soudure HDR qui veut dire High Definition Range. Ou peut-être autre chose, si je me trompe. En gros, quel est le principe ? C'est de la stéréoscopie 3D avec un contraste qui va jusqu'à 100 millions pour 1. Le principe, c'est que il fait tous des trucs bizarres auxquels j'ai pas tout compris, mais il arrive à souder et à continuer à voir ce qu'il est en train de faire. En tout cas, un projet super sympa que j'espère qu'on verra dans nos magasins ou dans nos sites favoris de kits dans pas longtemps. Deux nouvelles failles pour Java, une qualité de code inquiétante. C'est le titre d'un article de PC Impact qui nous met en garde contre les dernières mises à jour de Java qui ont toujours des failles béantes. Un petit conseil, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous avez Java activé sur vos navigateurs web, désactivez-les ou voire même désinstallez-les complètement. Puisqu'en fait, ce langage qui est massivement utilisé est devenu carrément une passoire. Donc faites attention et protégez-vous. Une nouvelle intéressante qui nous vient de Numérama qui titre piratage, une licence globale à plus de 10 euros par mois plébiscitée par les Allemands. Plutôt que de râler sur les vilains pirates qui ne font que être des gros gros vilains, certaines personnes ont, et en particulier l'université de Columbia, a décidé de mener une étude auprès de 1000 Allemands et 2303 Américains sur leurs habitudes et sur qu'est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour une offre légale. L'article est intéressant, il y a plein de graphiques, plein de données, je vous conseille d'aller voir, et ça montre surtout que si on donne une alternative légale, les gens peuvent être éventuellement prêts à payer. On finit avec la news super what the fuck de cet épisode, puisque un petit barjot a réussi à faire un véhicule à base d'une poussette qui va jusqu'à 53 miles par heure. À quoi ça sert ? À aller super super vite avec votre bébé à 53 miles par heure. C'est débile, nous on adore. Allez, c'est fini pour les news. Et oui, c'est dans l'air du moment, tout le monde en parle, on ne parle que de FacLab, de FabLab, de Hackerspace. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs bizarres ? Et oui, tout le monde dans la presse en ce moment ne parle que de ces choses bizarres et souvent confondent différents termes. Donc on va essayer de faire un tout petit peu le point sur les différents éléments. D'abord, un tout petit point historique, les Fab Labs, c'est une marque protégée, c'est-à-dire si vous voulez ouvrir un Fab Lab, vous devez aller passer un petit stage en Norvège, dans l'un des premiers Fab Labs qui a été installé. Historiquement, d'où ça vient ? Ça vient du MIT, bien sûr, de Boston, où en gros, il y avait un cours qui s'appelait « Comment fabriquer presque tout et n'importe quoi ». Le prof s'est vu avec une vingtaine de places disponibles, plusieurs dizaines, voire centaines d'élèves qui voulaient assister à son cours et fabriquer plein de trucs. Il s'est dit qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait pousser un petit peu ça. Le principe général est donc, que ce soit un Fab Lab, un Hackerspace ou peu importe le nom que vous leur donnez, de mettre à disposition dans un lieu plusieurs éléments et en particulier des outils industriels ou semi-industriels pour pouvoir fabriquer plus ou moins tout et n'importe quoi. La liste pour les Fab Labs est relativement précise, puisque en gros, ils disent qu'il y a quatre éléments indispensables pour ouvrir un Fab Lab. D'abord, il y a une découpeuse vinyle, une découpeuse laser, une fraiseuse CNC et une imprimante 3D. Pour les hackerspace, c'est beaucoup plus libre, puisque c'est en gros ce sur quoi on arrive à mettre la main. Le fonctionnement, même s'il est relativement proche entre les deux structures, est lui aussi légèrement différent. Puisqu'en général, un Fab Lab, c'est une structure privée qui va laisser ouvert son bâtiment pour le public, pour des institutionnels, etc. Et va permettre aussi à des industriels ou des entreprises de venir prototyper des éléments chez eux. Dans les hackerspace, c'est en général beaucoup plus ouvert, puisque ça dépend des gens qui sont présents, des outils qui sont là et des projets qui y sont faits. Si on résume en deux mots, un Fab Lab, c'est d'abord beaucoup plus structuré. Il y a des outils indispensables et par contre une certaine lourdeur administrative. Par contre, les hackerspace, c'est un peu la même version, mais un peu à la one again, c'est-à-dire des bâtiments qu'on arrive à squatter, des outils qu'on arrive à récupérer, mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus ouvert et qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Et vous allez me dire, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver un Fab Lab ou un Hackerspace ou un Fac Lab ou un Rural Lab ou un Machin Lab ou un Truc Space ? Eh bien, c'est simple. Vous allez sur les sites respectifs des Fab Labs ou sur hackerspaces.org pour aller voir tous les Fab Labs et les Hackerspace qui se sont créés et qui sont en train de se créer à droite à gauche. Et si vous n'en trouvez pas dans votre coin, eh ben vous avez qu'à en créer un et ce sera peut-être l'objet d'un autre dossier du Barbucast. Le site web de l'épisode, c'est Hobby Electro, le shop de FureTech. Je peux vous en parler puisqu'en fait j'ai passé une commande il y a de ça quelques jours. Et moi j'adore le principe, d'abord parce que c'est tenu par FureTech, l'espèce de gros psychopathe qui va monter dans des éoliennes pour bidouiller plein de trucs, qui nous offre des espèces de TV Bigon super sympas à monter soi-même et tout plein de projets comme ça rigolos. Donc la première chose, c'est que ça permet de choper du matériel électronique pas trop cher et de façon relativement rapide quand la poste y met du sien. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de soutenir FureTech dans ses projets. Donc moi, je vous incite à aller sur hobbyelectro.fr. Dans la section matériel de cet épisode, je voulais faire un petit point sur le matériel justement que j'utilise pour ce podcast. Souvent on me dit « Waouh, ouais, tu fais des podcasts, mais tu dois avoir trop d'argent parce qu'il y a trop de matos pour faire ça. » Eh ben en fait, pas trop, et en particulier pour le matos audio. Donc je vais vous décrire un peu ce que j'ai comme matériel. D'abord, on va commencer par le son. J'ai une petite mixette 4 voix, toute pourrie, qui est une Soundlab G105AA. Que j'ai acheté rue Victor Massé pour 19€. Ensuite, j'ai un micro complètement standard qui a dû me coûter 20-25€. J'ai un câble XLR qui est plus cher que le micro, qui a dû coûter entre 25 à 30€. Et le gros morceau du matériel, c'est le pied du micro. J'ai acheté un pied bien solide et qui m'a coûté à peu près 60€. Ça c'est pour la question matérielle. Ensuite le soft, j'enregistre sous GarageBand parce que je suis une grosse feignasse, je suis sous Mac et que c'est vachement plus simple. Ça m'a coûté 4,49€. Donc en gros vous faites un peu le total pour un peu plus d'une centaine d'euros, et encore parce que moi je suis un bourgeois et que j'ai décidé de prendre un pied super bourrin, vous pouvez enregistrer un podcast audio. Bien sûr, c'est un exemple de matériel. Vous pouvez très bien utiliser Audacity pour enregistrer. Vous pouvez très bien utiliser un vieux micro-casque pourri à quelques euros. Mais pour une centaine d'euros, vous avez un résultat correct, écoutable, pour vraiment pas beaucoup d'argent et qui vous permet d'enregistrer n'importe quel podcast. Il est temps de dire merci à tous nos amis des interwebs qui, bien sûr, nous écoutent et nous envoient des petits messages. D'abord, sur iTunes, Enagoruk et Morgunkorn, toujours avec des pseudos complètement imprononçables. Sur Twitter, les habitués Dédé Schultz, mais aussi numéro 6, Mitch Dapp, Jimmy Perret, Romain Béin, Canis Metalum, Barberousse, TTWWW et Quid Novi PDC, bien sûr le podcast Quid Novi, allez l'écouter tout de suite, et Dadel 42. Merci à tous pour vos commentaires et merci de continuer à suivre ce podcast. Voilà, ce Barbucast épisode 8 est terminé. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, @Barbucast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le blog ou iTunes. Que la barbitude soit avec vous et à bientôt.